J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise qui dévoile et décrypte l'actualité de nos forêts et de la filière bois.
Les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
un mardi sur deux
à 10h sur Radio Barthas 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Barthas 107FM. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de Palabre en forêt. Donc je suis ici avec Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour Lucille.
J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Astrid Demont-Brun qui va nous parler d'une action du syndicat des forestiers privés du Gard pour accompagner les forestiers privés dans une gestion forestière durable. Et Aymeric Sulmont, notre fameux garde-moniteur du parc national des Cévennes qui abordera les pins en Cévennes. Bonjour Astrid.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Bonjour Astrid. Alors.
Bonjour Virginie.
Avant de te parler de l'action enfin, que tu vas nous présenter, est-ce que tu peux nous parler du syndicat des forestiers du Gard? Qu'est-ce que fait ce syndicat? Quelles sont ses missions?
Oui, alors le syndicat des forestiers privés du Gard, c'est un syndicat professionnel dont la mission essentielle, c'est de représenter les propriétaires forestiers du département, de tout le département du Gard, au sein de différents comités de pilotage, des commissions, des groupes de travail, dans des domaines très variés. Ça peut être aussi bien l'environnement, la défense des forêts contre les incendies, les cours d'eau, l'urbanisme, la chasse, les impôts fonciers. Voilà, plein de sujets. Et le syndicat porte donc les problématiques et les revendications des propriétaires auprès des instances compétentes. Voilà, il y a aussi une mission très importante qui est d'assurer nos adhérents en responsabilité civile, défense et recours aussi. Il y a également une option pour l'assurance des forêts contre les incendies et tempêtes. Et on participe également à des actions de communication, des manifestations grand public. Et on a un bras technique, du coup, qui s'appelle le Groupement de Développement Forestier Gardois, pour participer à des études, des expérimentations et également faire du conseil forestier pour nos adhérents, enfin, les personnes qui nous sollicitent. Donc, comme vous voyez, il y a des missions très variées, très différentes.
Et on retient que, du coup, le syndicat, il est là pour faire du lobby pour les forestiers.
Oui, tout à fait, pour okay. Les propriétaires forestiers.
D'accord, merci. Alors, vous portez une action sur la gestion durable des forêts et qui comporte deux volets. Le premier concerne l'accompagnement de propriétaires forestiers pour se doter d'un document de gestion durable. Il y a une autre action sur des chantiers forestiers test. Est-ce que tu peux nous parler de cette action?
Oui, alors ça c'est dans le cadre du programme de développement rural du Languedoc-Roussillon. Que du coup le groupement de développement forestier gardois porte une opération sur la gestion durable des forêts cévenoles. C'est subventionné par le FEDER et par Alès Agglomération. Donc comme tu disais Virginie, il y a deux axes. Le premier, ça va être de sensibiliser les propriétaires forestiers de tout le territoire d'Alès Agglomération à une sylviculture durable et également de les soutenir dans leur gestion forestière. Donc pour ça, on a un objectif de réaliser 60 documents de gestion durable qui sont appelés des codes de bonne pratique sylvicole. Ces documents, ils décrivent les peuplements qui existent sur la propriété et ils permettent également de faire un calendrier, enfin de prévoir les interventions sylvicoles qui sont nécessaires à une conduite durable des peuplements pour les 10 années à venir. Donc ces documents, ils ont l'approbation officielle du Centre régional de la propriété forestière qui certifie ensuite que la forêt est gérée de manière durable. Voilà, et le deuxième axe, le deuxième volet de notre projet, c'est également effectivement du coup de réaliser des chantiers tests, comme tu le disais, de récolte de bois pour comparer différentes techniques vertueuses de récolte, tout en conciliant les différents objectifs de la forêt, donc à savoir des objectifs économiques, écologiques et sociaux. Voilà, donc c'est deux actions bien distinctes, mais finalement qui ont un objectif commun, c'est d'essayer d'atteindre une meilleure gestion des forêts saisonnelles.
Et du coup, qu'est-ce que la gestion durable des forêts pour toi ?
Alors, je pense que je vais vous citer la définition de la conférence de Rio de 1992.
Ah oui.
À savoir que la gestion durable a été définie comme une gestion susceptible de fournir à nos contemporains les biens et services qu'ils attendent, donc des forêts, sans remettre en cause la possibilité pour les générations futures de faire de même. Du coup, en fait, il s'agit de gérer en conciliant les trois fonctions de la forêt. La fonction économique, c'est à savoir produire du bois, produire aussi des produits non ligneux, tout en conservant et améliorant les ressources pour les générations futures. La fonction environnementale, avec bien évidemment le respect et le maintien de la biodiversité, la protection des sols et des eaux également, et aussi la fonction sociale de la forêt, donc tout ce qui est accueil du public et fournir d'autres aménités également. Donc voilà, c'est assez complexe, la gestion durable, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut essayer d'atteindre ces objectifs-là.
Et du coup, l'action que vous partez actuellement, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Ça n'avait jamais été fait ?
Alors, c'est assez innovant, parce que pour tout ce qui est chantier test, il n'y a encore jamais eu de collecte de données à nos jours avec donc tous ces objectifs croisés. Mmh. Il n'y a pas encore eu de données qui soient diffusées de manière pédagogique aux propriétaires et au grand public. Donc, ça, c'est assez nouveau. Et ce qui est aussi innovant, c'est que notre volet axé sur tout ce qui est animation autour de la gestion durable découle en fait d'une volonté d'Alès Agglomération de donner des subventions pour des travaux forestiers déficitaires. Donc ça, c'est tout à fait innovant de la part d'Alès Agglomération et donc le groupement de développement forestier gardois s'inscrit aussi dans cette démarche-là, de volonté d'aider les propriétaires à gérer durablement leur forêt.
D'accord. Et du coup, la charte forestière du pays des Cévennes, quel rôle il va avoir dans vos projets et dans ces actions-là ?
Alors, le syndicat est un acteur très actif de la charte forestière de territoire, qui détermine en fait la politique forestière du territoire, donc. Et les chantiers tests étaient déjà une action qui était inscrite dans la précédente charte forestière de territoire du pays Cévennes, n'est-ce pas Virginie ?
Oui, d'accord, je confirme.
Et donc là, cette action va permettre de réaliser ce qui était prévu. Et je crois, enfin tu me le confirmes Virginie, qu'on a le soutien de la charte forestière de territoire pour nos actions.
Ah mais complètement, ben oui.
Voilà, on
sinon,
va travailler main dans la main.
On est partenaires. Et en parlant de partenaires, du coup, est-ce que vous avez d'autres partenaires pour mener à cette action-là ? Des partenaires techniques, peut-être ?
Oui, alors le premier partenaire qu'on est, c'est le service public des forêts privées, le centre régional de la propriété forestière, qui nous aide également dans les actions d'animation et qui est également le service qui va valider les codes de bonne pratique sylvicole. Il y aura probablement aussi l'école des mines, qui va nous aider pour mener une étude sur le ruissellement lors des chantiers tests. Et bon, on a également le soutien de d'autres partenaires, comme bon, en plus de la charte forestière de territoire, aussi le parc national des Cévennes.
Et quels résultats vous attendez de ces actions ?
Alors, des résultats assez multiples. Tout d'abord, une instauration, je pense, de la culture forestière sur le territoire d'Alès Agglomération, avec essayer d'avoir un accroissement de la mobilisation des bois tout en ayant une amélioration des peuplements. Un autre résultat attendu, c'est aussi de la sensibilisation des propriétaires forestiers à la gestion durable. Voilà, et pour leur donner l'opportunité d'avoir une meilleure connaissance de leur forêt. Et avec les chantiers tests, voilà, on va essayer de créer des références économiques, sociales et environnementales sur la récolte vertueuse de bois.
Et oui, parce que du coup, voilà, c'est ces résultats d'échantés tests, ça va apporter des informations nouvelles qui pourra améliorer du coup la prise de décision pour les propriétaires forestiers dans leur gestion.
Et, tout à fait.
Ok. Et donc ces résultats, comment vous envisagez de les diffuser ?
On va faire des réunions de restitution à la fin du projet, mmh. où toutes les personnes qui sont intéressées pourront se joindre. Et on va également rédiger des fiches techniques qui seront mises à disposition, je pense, via les sites des différents partenaires, voilà, pour que les personnes intéressées puissent se renseigner.
Et on relaiera, bien sûr, sur forêtcosseven.fr.
Merci beaucoup.
Du coup, pour parler un petit peu plus concrètement des actions à venir, est-ce que toutes les essences d'arbres vont être abordées, pardon, et toutes les tailles de forêt?
Alors, toutes les essences d'arbres, oui, tous les peuplements qui peuvent exister dans le département. Par contre, pour ce qui est taille de forêt, on va se concentrer sur les forêts de moins de 25 hectares, parce que voilà, pour ce qui est plus de 25 hectares, c'est obligatoire en fait d'avoir un document de gestion durable, alors que c'est facultatif pour les moins de 25 hectares. Donc nous, on offre cette opportunité-là aux propriétaires, aux plus petits propriétaires, on va dire.
Et est-ce que ces actions vont être payantes pour les propriétaires ?
Non, du coup, comme c'est une action subventionnée par le FEDER et Alès Agglomération, c'est gratuit pour les propriétaires.
D'accord. Voilà,
c'est une action.
Est-ce qu'il y en a certains qui pourraient venir être volontaires pour justement réaliser ces actions avec vous, ou est-ce que voilà le nombre de propriétaires est déjà défini ?
Alors nous, on a un objectif d'une soixantaine de propriétaires, donc c'est très large. Et il reste encore plein de places, donc n'hésitez pas, tous ceux qui sont intéressés, à nous faire signe ou même à en parler autour de vous. C'est une action assez large.
Et ben, l'appel est lancé. Et du coup, comment on peut vous joindre pour les propriétaires forestiers qui seraient intéressés ?
Alors, directement sur notre numéro de portable, au 06 84 19 18 65, ou par mail. C'est technique@forestierdugard.com.
Merci.
Et vous pouvez également retrouver toutes les informations sur notre site internet forestierdugard.com.
D'accord, super. Et donc, pour clôturer l'interview, on demande à chacun de nos invités un petit mot forestier.
Oui. alors, je dirais que le temps forestier est différent du temps des hommes. Et moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans notre métier et dans toutes les personnes qui sont passionnées et qui veulent travailler pour la forêt, c'est que tout le travail qu'on peut faire aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons en récolter les fruits, mais c'est vraiment pour les générations futures qu'on travaille. Donc voilà.
Et merci pour cette jolie note de fin. Merci Astrid de Montbron.
Je vous en prie. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et vous êtes toujours sur Radio Huertas 107FM et nous vous proposons une petite pause musicale avec un groupe bien français, les Hawaii Samurai, et leur titre Toxic Avenger.
Nous sommes de retour sur Radio Barthas 107 FM après ce morceau de surf punk. Et nous sommes ici avec Aymeric Sulmont qui est en studio avec nous. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Bienvenue. Même si bon, je pense que tu connaissais déjà avant.
Non. Donc Aymeric, aujourd'hui tu vas pas nous parler d'un champignon, d'une mousse ou d'un lichen, mais tu vas nous parler d'arbres, des pins des Cévennes.
Oui, je me disais que c'était important de refaire un point sur les pins globalement en Cévennes, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt mal aimés. Le pin domine une grande partie de la forêt cévenole, notamment sur le versant méridional. Et je trouvais que c'était intéressant de refaire un point sur les différentes espèces qui sont présentes et pourquoi il est si abondant. Ouais. Voilà. Petit topo sur le nombre d'espèces en France. En France, on a 10 espèces de pins sur les 111 qui sont connues dans le monde. La plupart sont dans toutes d'ailleurs sont dans l'hémisphère nord. Et en Cévennes, on n'en a que 3 qui sont autochtones. Finalement, on en a beaucoup plus qui sont introduites. Mmh. Et les 3 autochtones sont connues. Si vous êtes en montagne, vous avez plutôt le pin sylvestre, qui est rose saumon sur la partie haute du tronc. Le plus connu aussi, qui est soi-disant endémique, mais qui n'est pas du tout endémique des Cévennes, c'est le pin de Salzmann, qui est présent dans les gorges du Tarn, dans la forêt de Bessèges, Malbosque, et puis du côté du col du Glas. Et vers Saint-Guilhem-le-Désert. C'est un pin qui est effectivement très rare, mais qui est autochtone. Et puis le dernier, c'est celui qui est sur le piémont calcaire cévenol, qui est le pin d'Alep. Tous les autres pins sont introduits. Et je pense notamment aux pins maritimes qui couvrent des centaines, des milliers d'hectares sur les Cévennes. Le pin maritime est introduit et vient, est originaire des Landes. En fait, il y a 2 pins maritimes, un originaire des Landes et un originaire de la région méditerranéenne, notamment de Corse et du Var. Et notre pin, lui, n'est pas dit mésogéen, c'est-à-dire méditerranéen, mais des Landes. Et c'est pour ça qu'il est tordu. C'est que le pin landais est originellement tordu. Même s'il a été largement amélioré au niveau génétique et que maintenant ils font des pins landais très droits, celui dont on a hérité en Cévennes pour étayer nos mines, principalement, eh ben, il est tordu.
J'en profite quand même pour compléter. Le Pays des Cévennes, dans le cadre de sa charte forestière, avait mené une étude en 2014 sur les caractéristiques des bois, et notamment celui du pin maritime. Et a priori, les résultats ont montré qu'il était quand même un petit peu moins tordu, celui présent en Cévennes, par rapport au landais, parce que comme il a moins de sol, on dit qu'il souffre plus, voilà.
En tout cas, c'est effectivement une essence qui est très présente, très cultivée, et peut-être... J'ai jamais compris pourquoi on s'amusait à détester cette espèce-là alors qu'elle est ultra abondante. Je comprends pas l'idée de se faire du mal à détester quelque chose d'abondant. Et du coup, on voit beaucoup de pratiques sylvicoles qui sont un peu à vouloir se débarrasser de cette essence, alors que quand on s'en débarrasse de manière brutale en coupant tout à blanc, finalement, on ne fait que replanter du pin maritime. Et je crois qu'avec cette essence, il faut être patient parce qu'il faut savoir que tous les pins sont des essences de lumière et de début d'histoire forestière. Et c'est ça qui est important, c'est que il prépare en fait une autre forêt qui peut être fait pour si c'est du pin sylvestre, qui peut être fait de hêtres ou de sapins derrière lui après une bonne centaine d'années quand même. Et puis si c'est du pin maritime ou du pin larisseau, puisque c'est les deux espèces qui dominent en Cévennes, ben derrière il peut y avoir une chênaie ou une châtaigneraie ou une chênaie châtaigneraie, enfin des essences qui sont plus nobles. Et peut-être on peut espérer d'autres essences, hein. Il n'y a pas de raison d'imaginer pourquoi pas des cédrés derrière de la pinède. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu dommage de vouloir s'acharner à supprimer cette essence, alors que avec un peu de patience, on peut passer à autre chose.
Voilà, et le résineux, comme tu nous dis, annonce le feuillu.
Voilà, exactement. Petit tour, oui, je voulais revenir un peu sur les différents pins qui sont présents et qui ont été introduits en Cévennes. On peut reparler en montagne du pin accroché, du pin mugot. Ce sont deux pins qui ont été introduits sur les crêtes pour maintenir les sols et qui sont originaires soit des Pyrénées, soit des Alpes. Et on a évidemment le pin larisseau qui est un pin de Corse avec 2 origines. Il existe aussi en Calabre, une variété de pin larisseau. Et puis, évidemment, le pin parasol que tout le monde connaît, mais qui est vraiment à l'état marginal et introduit dans les Cévennes. Et puis, j'avais envie de parler de 2 pins ornementaux que tout le monde connaît peut-être. Enfin, au moins l'un d'entre eux qui est facile, qui est un pin très gracieux, avec des très longues aiguilles pendantes et qui fait des longs cônes qui pendent très étroits, de 20 à 25 cm. C'est le pain de Weymouth. On appelle le pain blanc aux États-Unis, au Canada. C'est un pain sur le nord-ouest de l'Amérique du Nord. Et le pain beaucoup plus rigolo, qui est présent, mais de manière très anecdotique dans certains jardins et parcs, c'est le pain faiseur de veuves. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce pain?
Pas du tout.
Alors il est très très bien armé, c'est pour ça qu'il s'appelle faiseur de veuves. C'est le pain qui a les cônes les plus lourds du genre. C'est-à-dire qu'il fait des pommes de pin, si vous voulez, qui vont jusqu'à 35 cm de long.
Ah oui, c'est
et qui
bizarre.
Font jusqu'à 2,5 kg. Autant dire que si vous essayez d'abattre cet arbre à la hache et que vous recevez une pomme de pin sur le crâne, bah, oui, vous êtes mort. Parce que les pins, les écailles de chacune de ces cônes sont très, très...
Incisive.
Ah ouais, c'est comme des petits poignards de 1 à 2 cm de long. Donc c'est vraiment extrêmement agressif. Ça ressemble à une masse d'armes. Et donc ce pain a été planté, mais vraiment de manière très très marginale. J'en connais 2-3 endroits en Cévennes où il a été planté. Il s'appelle le pain faiseur de veuve ou pain coulterie pour les pinus coulterie pour les savants.
Et pourquoi il a été planté, du coup?
Oh bon, c'est l'agrément, hein, c'est des pins ornementaux. Il ne faut pas s'amuser à planter une forêt de ce pain et envoyer des bûcherons, c'est hyper dangereux. Mais c'était un pain que je trouvais remarquable. Moi, j'ai une pomme de pin à la maison.
Ah oui.
Ça fait toujours... ça fait parler les gens. Waouh. Voilà, que dire du pain? Ben, pourquoi on peut se demander pourquoi il est mal aimé? Donc j'avais dit parce qu'il est abondant et tout ça, mais c'est vrai qu'il, quand il est abondant, je reviens au pain maritime, il est potentiellement très inflammable et il acidifie les sols. Ça c'est une évidence, mais c'est parce que il faut raisonner sur la durée, quoi. C'est une essence qui prépare une autre forêt et il faut accepter que pour l'instant c'est inflammable et il faut limiter évidemment les dégâts, enfin l'inflammabilité. En essayant d'éclaircir les peuplements, mais on ne peut pas faire autrement que de vivre avec cette essence. Moi, je crois que un peu pour réhabiliter ce mal-aimé. Voilà. Les usages, je ne veux pas revenir dessus. Il y a énormément d'usages. Un usage qu'on n'a pas du tout vu apparaître en Cévennes, mais qui était très présent en Gascogne et dans les Pyrénées, c'est la récupération de la sève, de la résine, pour faire tout un tas de trucs, dont l'essence de térébenthine. Mais
et oui, et pour...
Ça ne s'est pas trop fait chez nous.
Non, ça ne s'est pas fait du tout. Et pour tout te dire, on travaille les chartes forestières Sud-Lozère et Pays Cévennes avec des chercheurs en ce moment même et les forestiers pour essayer de travailler ce sujet qui, effectivement, n'a jamais été travaillé chez nous. Et puis, on vous dira les suites dans une prochaine émission.
Ah, c'est une bonne idée.
Voilà. Eh bien, merci, Émeric Sudemont.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Cette émission s'achève et on vous propose de retrouver le coin des petites annonces, Lucille.
Oui, alors pour ce faire, l'idée c'est de relayer les messages de transmission et reprise des professionnels de la filière. Donc ce qu'on vous propose en fait, c'est d'aller sur notre site internet forêtcosseven.fr et de nous envoyer des messages, avec vos messages que vous voudriez qu'on diffuse dans l'émission.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futaie.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro Gardoise qui dévoile et décrypte l'actualité de nos forêts et de la filière bois.
Les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
un mardi sur deux
à 10h sur Radio Barthas 107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.